de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Les États-Unis permettent l'utilisation d'urgence de l'anticorps COVID-19 Regeneron. Pendant un mois, il n'y a pas eu de nouveaux cas de COVID-19 en Australie méridionale. Les relations avec la Turquie sont bonnes et amicales, affirmait le ministre saoudien des Affaires étrangères. L'Indonésie accueillera le sommet du G20 en 2022, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères. Les dirigeants du G20 surveillent les augmentations potentielles de la dette en raison du traitement du COVID-19. La coopération commerciale entre l'Indonésie et l'Égypte stimule l'économie et l'emploi, a déclaré Sandi. Le gouvernement vise l'absorption du biodiesel cette année à 8,5 millions de kilolitres. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'administration américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques, samedi 21 novembre, heure locale, a permis l'utilisation d'urgence des anticorps COVID-19 fabriqués par Regeneron Pharmaceutical. Le médicament d'expériment a déjà été donné au président américain Donald Trump, qui l'aurait aidé à se remettre de la maladie causée par l'infection par le SARS-CoV-2, le nouveau type de virus corona. À ce moment-là, Trump a reçu une dose de 8 grammes de mélange d'anticorps polyclonaux Regen-CoV-2 de Regeneron. La FDA déclare que les anticorps monoclonaux, le lecacirivimab et l'amdevimab, doivent être donnés ensemble pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes. Les patients pédiatriques dont le test de dépistage du SARS-CoV-2 est positif reçoivent immédiatement le médicament et ceux qui présentent un risque de COVID-19 sévère sont également inclus dans ces dispositions. Ce groupe comprend également les personnes âgées de 65 ans ou plus ou qui ont certains antécédents médicaux chroniques. L'Australie a ouvert dimanche plusieurs frontières intérieures et assoupli les restrictions dans les zones touchées par COVID-19. C'est parce que la plupart des États n'ont aucune nouvelle infection ou décès depuis des semaines. L'Australie du Sud, qui est devenue la semaine dernière l'épicentre de l'infection du pays, n'a signalé aucun nouveau cas dans la communauté et a levé son confinement drastique plus tôt que prévu. Selon le premier ministre de l'État, Stephen Marshall, une action rapide a évité une catastrophe. Le premier ministre Stephen Marshall a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre de cas actifs dans l'État avait atteint 37 après qu'une épidémie à des voyageurs revenant de Grande-Bretagne avait contraint 4500 personnes à la mise en quarantaine. L'Australie méridionale est l'État voisin de Victoria qui lutte contre la pandémie depuis des mois et où 90% de 907 décès liés au coronavirus en Australie ont été enregistrés. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, a déclaré que son pays entretenait de bonnes et amicales relations avec la Turquie. Il a également déclaré qu'aucune donnée n'indiquait qu'il y avait un boycott non officiel des produits turcs. Le prince Faisal a également déclaré dans une interview virtuelle en marge du sommet du G20 que le Royaume, aux côtés des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et de Bahreïn, continue de chercher des moyens de mettre fin aux différends avec le Qatar. Tout en continuant de souhaiter que l'on discute de cette question de sécurité légitime, le bureau du président turc a également annoncé que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'était entretenu par téléphone avec le roi saoudien Salman avant le sommet du G20. Les dirigeants ont discuté de l'amélioration des relations entre les deux pays. L'Arabie Saoudite accueille samedi et dimanche des rassemblements virtuels des dirigeants du G20 conformément aux restrictions relatives au coronavirus. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie occuperait la présidence ou hôte du sommet du G20 en 2022. Cela a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse virtuelle après avoir accompagné le président pour assister à la deuxième journée de la série du sommet du G20 via une vidéoconférence depuis le palais présidentiel de Bogor, Java de l'Ouest, dimanche soir. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno, a déclaré qu'à l'origine, la présidence indonésienne du sommet du G20 était en 2023. Entre-temps, l'Inde assurera la présidence du sommet du G20 en 2022. Cependant, étant donné qu'en 2023, l'Indonésie assumera également la présidence de l'ASEAN, l'Indonésie discutera de la présidence du G20 avec l'Inde. L'Indonésie a ainsi échangé la présidence du sommet du G20 avec l'Inde. Ainsi, l'Indonésie occupera la présidence du G20 en 2022, tandis que l'Inde en assurera la présidence en 2023. Les dirigeants du pays du G20 ont demandé au ministre des Finances et au gouverneur de banque centrale de surveiller le niveau de la dette publique et privée, étant donné que de nombreux pays creusent leur déficit budgétaire pour mettre en œuvre des politiques extraordinaires face à la pandémie de COVID-19. Cela a été transmis par la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, après avoir accompagné le président Joko Widodo au sommet du G20 virtuellement depuis le palais présidentiel de Bogor dimanche soir. Outre le niveau de la dette publique et privée, les dirigeants du G20 se concentrent également sur l'augmentation potentielle du coût de fonds tels que les intérêts sur les prêts ainsi que sur la ruée vers la liquidité sur les marchés financiers car de nombreux pays souhaitent augmenter leurs dépenses pour restaurer l'économie. Selon Sri Mulyani, les mesures visant à maintenir la soutenabilité des niveaux d'endettement au niveau public et privé seront un objectif qui doit être vu pendant la période COVID-19 et après la période COVID-19. Sri Mulyani a expliqué qu'au sommet du G20, le deuxième jour de dimanche, la réunion des dirigeants du G20 a discuté de nombreuses politiques pour répondre à l'impact de la pandémie de COVID-19 qui a causé des dommages, y compris dans l'économie mondiale. L'entrepreneur Santiago Uno est optimiste sur le fait que le commerce et les investissements entre l'Indonésie et l'Égypte peuvent être encore accrus afin de contribuer à stimuler l'économie et à créer des emplois pendant la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré Sandy dans une déclaration écrite citée par Antara à Jakarta dimanche dernier. Sandy a fait part de cette conviction après avoir rencontré le vice-ministre égyptien du commerce et de l'industrie, Ahmed Mahouri Diab, au Caire samedi. L'ancien vice-gouverneur de DKI Jakarta a déclaré que, vu d'une économie en croissance avec un très grand marché, l'Égypte a également invité l'Indonésie à accroître son commerce. En outre, il a révélé que trois secteurs principaux devraient être au centre de la reprise et de la relance de l'économie post-épidémique. Le secteur à forte intensité de main-d'œuvre ouvrant les emplois, tels que l'industrie de l'huile de palme et ses dérivés. Les micro-petites moyennes entreprises sont principalement liées à l'économie créative, au cinéma et aussi au tourisme. Le troisième concerne le développement de la zone industrielle en Indonésie qui se développe actuellement à Batam, Java Central et dans le secteur immobilier. Le gouvernement prévoit que l'absorption du biodiesel de cette année pourrait atteindre 8,5 millions de kilolitres. Ce chiffre est un chiffre optimiste au milieu de la pandémie de COVID-19. Le directeur de la bioénergie du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, Andrea Febimisna, a déclaré dimanche son optimisme que la réalisation de l'absorption du biodiesel cette année pourrait dépasser l'objectif fixé dans le plan général national de l'énergie. L'objectif fixé dans le plan général national de l'énergie en 2020, le biodiesel est environ de 8 millions de kilolitres. L'espoir est qu'en 2020, l'absorption peut être de 8,5 millions de kilolitres. Même s'il est estimé qu'il dépassait l'objectif fixé dans le plan général national de l'énergie, Febi a admis que le chiffre est encore en dessous de l'objectif de cette année, qui était initialement fixé au niveau de 9,6 millions de kilolitres. Cela est dû à l'existence de politiques de restriction dans diverses régions en raison de la pandémie. Il a expliqué qu'il y avait de nombreux confinements, de nombreuses opérations de transport avaient diminué de sorte qu'en 2020, il y avait effectivement une diminution de l'absorption des biocarburants. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « La Banque Centrale réduit les taux d'intérêt ». Vous êtes avec moi Audrey. Sur Jolitard, jeudi dernier, 19 novembre, la réunion du Conseil des gouverneurs Banque Centrale, Banque d'Indonésie, a décidé de baisser les taux d'intérêt pour stimuler la croissance économique. La Banque d'Indonésie, ou bien BI, a abaissé le taux de prise en pension inversée à 7 jours BI, BI-7DRR, de 25 points de base à 3,75%, puis le taux de facilité de dépôt à 3% et le taux de la facilité de prêt à 4,5%. Cette décision a été prise en tenant compte de la faiblesse de l'inflation, du maintien de la stabilité extérieure et en tant que mesure supplémentaire pour accélérer la reprise économique nationale. La Banque d'Indonésie reste déterminée à soutenir la fourniture de liquidités, y compris le soutien de la Banque d'Indonésie au gouvernement pour accélérer la réalisation du budget de l'État 2020. Selon le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Peri Warjio, la décision a été de poursuivre la politique de stabilisation de taux de change de la roupie conformément aux fondamentaux et aux mécanismes du marché. En outre, la baisse des taux d'intérêt vise également à renforcer la stratégie d'opération monétaire pour soutenir une politique monétaire accommodante. La décision de baisser les taux d'intérêt a également pris en compte plusieurs indicateurs qui se sont améliorés en octobre 2020. Parmi ceux-ci figurent la mobilité des personnes, les ventes alimentaires et en ligne. Indice PMI des directeurs d'achat manufacturiers et les revenus publics. Des facteurs externes montrent également des indicateurs d'amélioration. Parmi eux, un excédent de la balance des paiements au troisième trimestre 2020 tiré par des améliorations du compte courant et des transactions en capital financier. L'abaissement des taux d'intérêt de référence de la banque devrait faire baisser les taux débiteurs pour stimuler l'économie. Les performances à l'exportation commencent maintenant à augmenter. Il est donc temps pour les banques de redonner du crédit au monde des affaires. Les efforts de la Banque d'Indonésie doivent être soutenus afin que l'Indonésie puisse sortir du ralentissement économique actuel. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 novembre 1980. Une série de tremblements de terre a frappé la région du sud de l'Italie. Chers auditeurs, le tremblement de terre italien de 1980 s'est passé dans la région d'Irpinia, dans le sud de l'Italie, le dimanche 23 novembre 1980. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, centré sur le village de Conza, a tué 4 800 personnes et en a blessé plus de 10 000. Le gouvernement italien a dépensé environ 58,64 milliards d'euros pour la reconstruction, tandis que 100 millions d'euros provenaient d'autres pays. Chers auditeurs, on continue avec l'événement du 23 novembre 1996, le vol 961 de la compagnie aérienne éthiopienne a été détourné et s'est écrasé dans l'océan Indien. Le vol 961 d'Ethiopian Airlines en Boeing 767 avec la route Addis Abeba Nairobi a été détourné le 23 novembre 1996. L'avion a effectué un atterrissage d'urgence dans les îles de Galawa à Moroni, aux Comores, parce qu'il était à court de carburant. Cet accident a fait 123 morts et 52 autres passagers blessés. Sergio Littard, on finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 novembre 2003. Le président de la Géorgie, Edouard Amvrosefik Sefardnadze, démissionne de ses fonctions. Georgi Edouard Amvrosefich Sevardnadze est devenu président de la Géorgie en 1995 jusqu'à sa démission le 23 novembre 2003 au milieu de la révolution des roses. Sous Mikhail Gorbatchev, il a été ministre des Affaires étrangères de l'URSS de 1985 à 1990. Les processus politiques de Sevardnadze lui ont valu le surnom de Tetrimelia, ou bien White Fox. Bon, cher Gitar, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Memahami maksud amarah. seperti yang kau minta.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici donc mon Indonésie.
Sejahtera, bonsoir. Voici mon Indonésie et en pour le titre, l'Indonésie lutte contre la discrimination de palmier à huile en Europe. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie continuerait de lutter contre la discrimination de l'huile de palme indonésienne par l'Union européenne. Selon elle, cet acte discriminatoire est contraire au principe de partenariat et de collaboration que l'Indonésie promeut. Il a veillé à ce que ce problème soit résolument confronté par l'Indonésie. L'huile de palme est un produit de base qui constitue l'épine dorsale de l'économie indonésienne. La valeur des exportations atteint 23 milliards de dollars l'an dernier. Retno Marsudi, dans son discours lors de l'événement du 5e sommet sur la sécurité alimentaire de Jakarta, Victor Lemang, jeudi, a déclaré que sa partie savait l'existence de la discrimination contre l'huile de palme indonésienne, voire une campagne négative, surtout en Europe. L'Indonésie veut toujours lutter contre cette discrimination. Selon Mme Retno, les actions discriminatoires de l'Union européenne vont à l'encontre des principes de partenariat et de collaboration dans les relations entre les pays. Elle a admis qu'il y a plusieurs jours, elle avait communiqué avec le vice-président de la Commission européenne, haute représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, pour discuter de l'importance d'accroître les partenariats entre eux et de résoudre le problème de la discrimination dans le palmier à huile indonésien. Elle a souligné l'importance d'un partenariat plus fort et de la résolution du problème de la discrimination à l'égard de l'huile de palme indonésienne. L'Indonésie communique toujours ouvertement ce que l'Indonésie veut en étant le traité équitablement. Retno a souligné que l'Indonésie communiquera toujours avec l'Union européenne pour résoudre le problème de l'huile de palme. Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie souhaitait un partenariat plus fort avec l'Union européenne, qui est un partenaire naturel depuis longtemps, car les deux parties partagent les mêmes points de vue sur de nombreuses questions. Outre l'huile de palme, Retno s'est également assuré qu'il continuerait à superviser divers produits de base indonésiens de premier plan qui ont subi une injustice sur le marché mondial. Elle a ajouté que sa partie soutient pleinement et continue de superviser divers produits de base indonésiens de premier plan, tels que le café, le thé et le caoutchouc. La diplomatie indonésienne ne veut pas rester silencieuse et continuera de se tenir debout pour défendre les intérêts nationaux. Serge Retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Percaya. telah kuberikan semua. Tapi mengapa kau tak pernah percaya? Dua sisi dunia memang berbeda, tapi bukan untuk dipisahkan. Cintailah aku, ku damai di sisimu. Peluk aku, dekat
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la Voix d'Indonésie. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à voyager en ville Tomohon dans la province de Sulawesi du Nord. Chers auditeurs, la ville de Tomohon est flanquée de deux montagnes, à savoir les montagnes Lokon et Mahau. Pas étonnant que cet endroit est si frais avec de beaux paysages naturels. Dans cet endroit, beaucoup de fleurs poussent, rendant Tomohon est surnommée la ville aux mille fleurs. L'une des principales destinations touristiques à Tomohon est le lac Lino. Chers auditeurs, le lac Lino est situé à Lahendong, dans le sud de Tomohon, Sulawesi du Nord. Le mot Lino provient de la langue de Minahasa, Lilinowan, qui signifie lieu de collecte d'eau. La couleur de l'eau du lac peut changer en vert, bleu ou jaune brunâtre. Le changement de couleur de l'eau est causé par les éléments soufre enfouis dans le lac et par la réflexion et la réfraction des rayons du soleil. Le bon moment pour profiter de la beauté du lac Lino est le matin, parce que à ce moment-là, l'air était toujours pur et le climat autour du lac était toujours très frais. En outre, l'atmosphère était si calme et apaisante. Chers auditeurs, lorsque vous entrez dans la région du lac Lino, vous sentirez la mauvaise odeur qui provient du soufre de l'éruption du mont Mahau il y a des centaines d'années. Ainsi, l'eau de ce lac est de l'eau sulfureuse, si bien que les touristes sont interdits de nager parce que la teneur en soufre peut faire mal au corps. Chers auditeurs, se dirigeant vers le lac Lénau du centre-ville de Tomohon prend environ 20 minutes avec le véhicule motorisé. L'emplacement de cette destination touristique est facile à atteindre car l'accès par la route et le terrain sont assez faciles. Vous pourrez profiter de la beauté naturelle du lac Lénau tout en dégustant une tasse de thé et de café. Vous pouvez acheter ces boissons au magasin ou à l'étal dans la région du lac Lénau. Le prix est relativement bon marché à de 5 000 à 25 000 rupiah. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Demain, nous nous retrouverons avec d'autres sujets plus intéressants. À demain!
Bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, deg-degan daga digi dup.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici apprendre l'indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit du vocabulaire indonésien et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Apa profesi Anda ?» Je répète « Apa profesi Anda ?» En français, quelle est votre profession ? Bonne étude. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est « Apa profesi Anda ?» Apa profesi Anda ? En français, quelle est votre profession ? Kevin fait la connaissance du père de Rama, puis Kevin pose des questions sur sa profession.
Kenalkan, saya Kevin, Pak.
Oh, temannya Rama ya. Saya Hasan, ayahnya Rama.
Wah, bagus sekali seragamnya. Kalau boleh tahu, apa profesi Bapak?
Iya, ini seragam dinas. Profesi saya seorang tentara di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia.
Sepertinya Bapak sudah berpangkat tinggi ya?
Ah, kamu bisa saja. Saya masih berpangkat letnan.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Apa profesi Anda? Apa profesi Anda? En français, quelle est votre profession? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Kenalkan, saya. Kenalkan, saya. Signifie bonjour, je m'appelle. Apa profesi bapak? Apa profesi bapak? Signifie monsieur, quelle est votre profession? Apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaan Anda? Signifie quel est votre travail? Seragam dinas. Seragam dinas signifie uniforme officiel. Tentara. Tentara signifie l'armée. Berpangkat. Berpangkat signifie grade. Ah, kamu bisa saja. Ah, kamu bisa saja signifie vous aurez pu. Letnan. Letnan signifie lieutenant. Anda. Anda signifie vous. Si vous voulez demander la profession de quelqu'un, vous pouvez poser une question. Apa profesi Anda? Apa profesi Anda? Signifie quelle est votre profession? Ou apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaan Anda? Signifie quel est votre travail? Si l'interlocuteur est une personne âgée, vous pouvez changer le mot Anda. Anda signifie vous et l'appelle Bapak. Bapak signifie monsieur ou bien Ibu. Ibu signifie madame. Par exemple, apa profesi Bapak? Apa profesi Bapak signifie quelle est votre profession, monsieur? Pour être plus poli, vous pouvez ajouter une phrase, kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu signifie si je puis savoir. Pour répondre à une question sur la profession, vous pouvez dire profesi saya seorang. Profesi saya seorang signifie ma profession est. Par exemple, wah, bagus sekali seragamnya. Kalau boleh tahu, apa profesi Bapak? Wah, bagus sekali seragamnya. Kalau boleh tahu, apa profesi Bapak? Signifie, wow, quelle belle uniforme. Si je puis savoir, quelle est votre profession, monsieur? La personne à qui vous demandez peut répondre « Iya, ini seragam dinas. Saya bekerja sebagai tentara di pusat misi pemeliharaan perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Iya, ini seragam dinas. Saya bekerja sebagai tentara di pusat misi pemeliharaan perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Signifie oui, c'est un uniforme officiel. Je suis soldat au centre de mission de maintien de la paix des forces armées indonésiennes. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Kenalkan, saya Kevin, Pak.
Oh, temannya Rama ya. Saya Hasan. Ayahnya Rama.
Wah, bagus sekali seragamnya. Kalau boleh tahu, apa profesi Bapak?
Iya, ini seragam dinas. Profesi saya seorang tentara di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia.
Sepertinya Bapak sudah berpangkat tinggi ya?
Ah, kamu bisa saja. Saya masih berpangkat letnan.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson keroncong intitulée Bumi Emas Tanah Airku, chantée par Ismanto. Chers auditeurs, cette chanson décrit la richesse de la patrie indonésienne. Forêts vertes, rivières, lacs et sols fertiles. Au-dessus de ces terres, diverses plantes poussent et les autres richesses de la terre sont également sous terre. C'est un cadeau tout puissant pour la nation indonésienne qui doit être gardé et reconnaissant. Cette chanson et l'ouvre du maître keroncong Gesang. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Bumi Emas Tanah Airku, ou en français Ma Patrie, la Terre Dorée, chantée par Ismanto. Bonne écoute.
Thank you. Aku percaya bumi emas tanah airku. Sepanjang masa kan menghijau selalu. Di sana dan danau menyimpan airan gunawan. Bumi dikali kan berlimpah berkah abadi. Silih berganti tunggunya bila di kanami. Aku percaya bumi emas tanah airku. Sepanjang masa kan menghijau selalu.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.